Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bonjour à tous. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Sachez que nous sommes en train de préparer pour vous des t-shirts de notre collection exclusive Le Coin du Crime, que tous nos sponsors VIP recevront gratuitement chez eux avant la fin du mois de mars. Il s'agit de Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt, Marianne Lafleur, Arnaud Imbeau, Pascal Dague, Joël LVT et une nouvelle venue, Delphine Amblat. Nous vous remercions infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP. À très vite. L'histoire du jour est celle de Richard Cottingham, un personnage entouré de mystères et de questions sans réponse, dont l'affaire est toujours active aujourd'hui. C'est l'une des figures les plus inquiétantes et indéchiffrables d'Amérique. Au cœur de Mott Haven, dans le Bronx, un quartier qui pulse au rythme de New York, naît Richard Francis Cottingham le 25 novembre 1946. Premier souffle, première lumière pour le premier de quatre enfants d'une famille ordinaire. Deux ans plus tard, en quête d'un avenir meilleur, la famille Cottingham quitte l'effervescence de New York pour Dumont, dans le New Jersey. Dumont, avec ses rues tranquilles bordées d'arbres, ses voisins qui se saluent et ses enfants qui remplissent l'air de leur rire. C'est dans ce décor, paisible, que Richard, à peine âgé de 4 ans, découvre la liberté. Les jeux en extérieur, les courses effrénées, la camaraderie. Mais un après-midi, tout bascule. Alors que le petit Richard est plongé dans ses jeux, une voiture le heurte. Le choc est brutal, la peur envahissante. Sa mère, paniquée, se précipite à ses côtés. « Oh mon Dieu, Richard, Richard, tu m'entends? C'est maman !» crie-t-elle. Son cœur battant la chamade alors qu'elle se fraye un chemin à travers la foule qui s'est formée. L'accident, fort heureusement, s'avère bénin. Richard s'en sort avec une blessure à la tête, mais il est vivant. Les jours passent, les soins apportés font effet, et la blessure guérit. Cependant, le Richard qui se relève n'est plus tout à fait le même. L'enfant, jadis joyeux et insouciant, devient plus réservé, plus calme. Les rires se font moins fréquents, les jeux moins bruyant. « Tu as remarqué comme Richard a changé depuis l'accident ?» murmure sa mère à son père, l'inquiétude teintant ses mots. « Oui, il semble différent, plus silencieux, » répond-il, les yeux posés sur son fils qui, seul, regarde par la fenêtre. Ce que personne ne sait alors, c'est que cet accident a déclenché quelque chose en Richard. Un changement subtil, mais profond. Est-ce la blessure à la tête qui a altéré son comportement? A-t-elle laissé des séquelles invisibles qui influenceront son parcours de vie? Les questions restent en suspens, flottant dans l'air comme un présage inquiétant de ce que l'avenir pourrait révéler. Dans le silence de Dumont, Richard grandit, portant en lui les marques invisibles d'un après-midi qui a peut-être redéfini son essence même. Riverdale, 1956. La famille s'est agrandie. Trois enfants ont fait leur apparition. Richard, du haut de ses 10 ans, explore déjà des terrains qui déconcertent les adultes autour de lui. Dans le coin le plus reculé de son jardin, il manipule, avec une fascination inquiétante, différents types de cordes. « À quoi tu joues, Richard ?» Sa mère le surprend un après-midi, un brin de curiosité teinté d'inquiétude dans la voix. « Oh, rien, maman. Juste un jeu, » répond-il avec un sourire énigmatique, cachant promptement ses trésors. Deux ans plus tard, la famille Cottingham déménage à Rivervale, un havre de paix dans le New Jersey. Avec ses vastes espaces verts et son atmosphère conviviale, cela semble l'endroit idéal pour une famille de la classe moyenne américaine. Richard se rapproche encore plus de sa mère, une femme dévouée qui voit en son fils aîné un pilier de tendresse et de soutien. « Richard, viens aider ta mère », l'appelle-t-elle souvent. Et ensemble, ils bricolent autour de la maison ou prennent soin des pigeons voyageurs, une passion qui les unit. Mais l'entrée de Richard à l'école paroissiale de Saint-Andrews marque le début d'une solitude exacerbée. Peinant à se lier d'amitié, il trouve refuge dans le silence de ses hobbies. « Pourquoi tu ne te fais pas des amis comme les autres enfants ?» s'inquiète sa mère. Mais Richard se contente de hausser les épaules, préférant la compagnie de ses pensées. L'adolescence de Richard, en surface, ne diffère pas de celle de ses contemporains. Pourtant, sous cette normalité apparente, une ombre grandit. Avec les années, des incidents troublants émaillent son parcours. Des arrestations pour incendie criminel et vol, des actes rebelles qui marquent le début d'une descente inexorable. Richard intègre le lycée Pascack Valley à Hillsdale, se fondant dans la masse, évitant les regards. Là, il découvre la course à pied, une discipline qui lui convient parfaitement. Seul, il peut courir, loin des autres, dans un effort solitaire qui lui procure un sentiment de liberté. « Tu as du talent, Richard !» lui lance son entraîneur après une course. Mais Richard ne cherche ni la gloire, ni la reconnaissance. Courir est sa façon à lui de s'échapper. Diplômé de Pascack Valley High School, il rejoint son père à la compagnie d'assurance métropolitaine. L'informatique devient alors son nouveau domaine d'exploration. Discrètement, il s'y perfectionne, attiré par le potentiel illimité de ses machines. En 1966, il est prêt pour un nouveau départ chez Blue Cross Blue Shield, comme opérateur informatique. Mais derrière cette success story se cache un homme complexe, tiraillé entre la lumière de sa vie professionnelle et les ombres de ses passions secrètes. Richard Cottingham est à la croisée des chemins. Sa période de terreur, s'étendant de 1967 à 1980, a laissé une marque indélébile sur les États de New York et du New Jersey. Les actes odieux de Cottingham, qui ont conduit au meurtre d'au moins 18 jeunes femmes et filles, lui ont valu plusieurs surnoms glaçants, notamment le New York Reaper, le Torso Killer et le Times Square Killer. Sa condamnation pour 3 meurtres particulièrement horribles à Times Square, comprenant des mutilations, a solidifié sa réputation sinistre. C'est à la fin des années 60 et au début des années 70 que la véritable nature de Cottingham se révèle. Ses meurtres brutaux, caractérisés par la torture, la mutilation et le démembrement, envoient des ondes de choc à travers la ville de New York. Sa méthode de mutilation des corps de ses victimes est distinctive. Après les avoir tués, il a l'habitude de découper certaines parties de leur corps, spécialement la tête et les mains, ne laissant que le torse, d'où le surnom de tueur au torse, Torso Killer. Nous sommes en 1967, une époque tumultueuse pour l'Amérique. Mais à Little Ferry, dans le New Jersey, la ville semble suivre son cours habituel. Après un an chez Blue Cross Blue Shield, Richard Cottingham, un jeune homme de 20 ans, arpente les allées d'un centre commercial du comté de Bergen, perdu dans ses pensées sombres. De l'extérieur, il pourrait passer pour un client ordinaire, mais son esprit est loin d'être paisible. Ce même jour, Nancy Vogel, une jeune femme de 29 ans, pleine de vie et d'enthousiasme, informe son mari qu'elle compte passer la soirée au bingo à l'église locale, Sainte-Louis-Margaret. Cependant, en cours de route, elle change d'avis. Poussée par une envie soudaine de nouveauté, elle décide de se rendre au centre commercial, ignorant que ce choix scellera tragiquement son destin. Richard et Nancy partagent le même lieu de résidence, Little Ferry, une coïncidence qui leur donne une connaissance superficielle l'un de l'autre. Quand Richard aperçoit Nancy parmi la foule, un frisson traverse son échine. Il la connaît, et soudainement, une pulsion sombre et dévastatrice s'empare de lui. « Ce sera elle », se dit-il, alors que ses fantasmes de bondage prennent le dessus. Nancy, inconsciente du danger, poursuit ses achats, s'immergeant dans la banalité réconfortante de cette soirée. Mais le destin a d'autres plans. Alors qu'elle se dirige vers sa voiture, elle croise Richard. Lui, prétendant une familiarité due à leur voisinage, s'approche avec un prétexte fallacieux. « Besoin d'aide avec vos sacs, Nancy ?» dit-il d'une voix douce, trompeusement rassurante. « Volontiers. » Nancy, prise au dépourvu, mais ne voulant pas paraître impolie, accepte son offre. C'est le début de la fin. Richard, avec une précision glaciale, orchestre l'enlèvement. Il l'emmène dans un champ isolé où il met fin à ses jours, dans un acte d'une brutalité inimaginable. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard, le 31 octobre, dans sa voiture abandonnée à Ridgefield Park, nu, ligoté, caché sous une couverture derrière le siège passager. Ce crime marque le début sombre de la carrière criminelle de Richard Cottingham. À seulement 20 ans, il franchit une ligne qui le sépare à jamais de l'humanité. À Little Ferry, les rues tranquilles et les vies apparemment ordinaires cachent désormais un secret terrifiant. Parmi eux vit un monstre, et personne n'est plus en sécurité. Dans le bourdonnement incessant de l'open space, chez Blue Cross Blue Shield à Manhattan, Richard Cottingham semble être un employé comme un autre. Derrière son écran d'ordinateur, il jongle avec les chiffres et les codes. Mais c'est lors des pauses café que son vrai visage se révèle. Il trouve en Dominique Volp, un collègue, une oreille attentive. « Tu sais, Dominique, il n'y a rien comme la nuit new-yorkaise », lance Richard avec un sourire énigmatique. « Les rues sont pleines de promesses d'aventures. Les prostituées, les jeux de hasard, c'est là que la ville prend vie. » Dominique, mal à l'aise mais curieux, hoche la tête. « Et ta femme, elle pense quoi de tout ça ?»« Janet ?»« Elle ne sait rien, et c'est mieux comme ça », rétorque Richard, un éclat sombre dans le regard. Le 3 mai 1970, Richard a épousé Janet à l'église de Notre-Dame de Lourdes, à Queens Village, New York, une femme qu'il prétend aimer. Ensemble, ils fondent une famille, accueillant 3 enfants, une fille et 2 garçons. Ils s'installent sur l'Edgewood Terrace, à Little Ferry, une banlieue tranquille qui semble être l'antithèse de la double vie que mène Richard. À sa femme, il dit travailler la nuit, une excuse parfaite pour dissimuler ses véritables escapades dans les ténèbres de New York. Mais le 21 août 1972, le vernis commence à craquer lorsque Richard est arrêté pour vol à l'étalage au Stearns Department Store près de Paramus. Ce délit, mineur en apparence, révèle les fissures dans le masque soigneusement construit de l'informaticien modèle. La honte et le désarroi s'abattent sur la famille Cottingham, forçant Richard à chercher un nouveau départ. Ils déménagent alors au 29 Freeland Street à Lodi, un quartier qui promet paix et normalité. Mais la tranquillité est éphémère. Peu après l'arrivée de leur dernier enfant, Richard entame une liaison avec Barbara Lucas, une femme qui, comme lui, semble attirée par les abîmes de la nuit. Barbara, tu comprends, n'est-ce pas? La nuit, la liberté, l'excitation, souffle Richard un soir, alors qu'ils partagent un verre dans l'appartement secret de Midtown. Barbara, captivée et terrifiée à la fois, acquiesce. Mais au fond, elle ignore l'étendue de la noirceur qui habite Richard. Il continue à violer, à tuer, à agresser sexuellement des femmes, avant de rentrer chez lui, auprès de sa femme ou de sa maîtresse, sans le moindre remords. La façade du père de famille et informaticien respecté cache un prédateur, un monstre, qui se nourrit de l'ombre des rues new-yorkaises. Nous sommes en 1977, une année qui restera gravée dans l'histoire de la petite ville de Little Ferry, New Jersey, pour ses sombres événements. Mary Ann Carr, une jeune femme mariée, pleine de vie, disparaît, sans laisser de traces, de l'appartement de l'Edgeview Terrace, où elle réside avec son époux. La nouvelle de sa disparition se répand comme une onde de choc dans la communauté. Une jeune femme mariée a été signalée disparue, dans des circonstances suspectes, du complexe d'appartements à Little Ferry, où elle vivait, annonce solennellement le lieutenant Alan Greco, du département du shérif du comté de Bergen. Sa voix, empreinte de gravité, résonne lors d'une conférence de presse tendue. Les jours passent et le mystère autour de la disparition de Mary Ann s'épaissit. Comment Richard Cottingham, un homme que la ville connaît comme l'un des siens, a-t-il pu attirer Mary Ann Carr dans sa voiture ce jour fatidique? Les détails de leur rencontre restent flous, perdus dans les méandres de cette journée d'hiver. Ce que l'on sait, c'est que Cottingham a enlevé Mary Ann du parking de son appartement, l'entraînant dans une spirale de terreur. Il l'a emmené dans un hôtel anonyme, un lieu devenu le théâtre d'actes inhumains. Il l'a violé, torturé et finalement assassiné dans un déchaînement de violence. Le corps de Mary Ann Carr présentait des marques de ligatures sur ses poignets et ses chevilles attachées, ainsi que sur son cou. Malgré les preuves de l'agression sexuelle, les enquêteurs peinent à relier les indices, à tracer un chemin vers l'agresseur. Peu après, la police découvre plusieurs autres victimes d'agressions sexuelles, éparpillées près de l'aéroport, certaines abandonnées le long de la route, d'autres dans des motels désolés. Côté personnel, en avril 1978, Janet Cottingham demande le divorce pour des motifs de cruauté mentale et abandon. Elle affirme que son mari refuse d'avoir des relations sexuelles avec elle depuis qu'ils ont eu leur troisième enfant, qu'il la laisse avec un revenu insuffisant pour payer les factures et reste dehors jusqu'au matin. Le 23 septembre 1978, New York s'illumine sous les néons, tandis que Richard Cottingham est à nouveau hanté par ses sombres désirs. Ce soir-là, Karen Schilt, une jeune serveuse pleine de vie, devient malgré elle le centre de son attention mortelle. Après une journée chargée au Tuesdays, un bar grillé sur la 3ème avenue, Karen quitte son lieu de travail vers 18h30. Son esprit déjà tourné vers la visite prévue chez son petit ami, avant de revenir servir jusqu'à 20h. Poussée par l'envie de décompresser après une longue journée, elle se dirige vers un autre bar de la 3ème avenue. Vers 20h30, elle y arrive, prête à se détendre. C'est là, dans l'ambiance tamisée, qu'elle engage une conversation avec un homme se présentant sous le nom de John Schiffer. Richard Cottingham, car c'est de lui qu'il s'agit. Peu de temps après leur échange, Karen commence à se sentir mal.
« Je ne me sens pas très bien », murmure-t-elle, tentant de garder son équilibre.
Sa tête tourne, un malaise profond s'installe, ses jambes peinent à la soutenir. Convaincue qu'elle va s'évanouir, elle décide de quitter le bar, espérant que l'air frais la réconfortera. À peine sort-elle qu'une voiture s'arrête à sa hauteur. Cottingham, à l'intérieur, lui propose de la raccompagner.
« Vous n'avez pas l'air bien, laissez-moi vous aider », insiste-t-il.
Karen, trop faible pour discerner le danger, accepte et s'effondre de sommeil peu après avoir pris place à ses côtés. Le lendemain matin, le patrouilleur Raymond Auger la découvre, à l'agonie, dissimulée dans un fossé de drainage derrière une voiture, près de l'immeuble d'appartement Ledgewood Terrace, un lieu autrefois familier à Cottingham. Le spectacle est horrible. Son corps est marqué par la violence, ses vêtements défaits, témoignant de l'horreur subie. Malgré ses blessures graves et son état précaire, les secours parviennent à la ramener à la vie, contre toute attente. Transportée à l'hôpital de Hackensack, Karen s'éveille, perdue, ne gardant qu'un souvenir flou de sa terrifiante épreuve, avec pour seul indice une description vague de son agresseur. La police se retrouve face à une impasse. Le 10 octobre 1978, la nuit tombe sur la ville, enveloppant ses rues d'un voile d'obscurité. Suzanne Jaeger, une femme dont la vie est sur le point de basculer dans un cauchemar, se voit proposer un rendez-vous par Richard Cottingham. L'offre, bien que répugnante, vient avec la promesse de $200 pour une soirée qui s'annonce comme tout sauf ordinaire. Occupée, Suzanne lui laisse ses coordonnées. Le lendemain, les dés sont jetés. Un appel de Cottingham et tout est arrangé. Ils se retrouvent à minuit devant le motel Alpine. De là, leur périple nocturne les mène au pub irlandais Flanagan's, un établissement baignant dans la lumière douce de la First Street, non loin du pont de Queensboro. Assis à une table, Cottingham, se faisant passer pour Jim, dévoile à Suzanne des fragments de sa vie, un mari, père de 3 enfants, résidant dans le New Jersey. Son métier dans l'informatique, son soi-disant succès au jeu, tout semble calculé pour impressionner. Il étale son butin, captant l'attention de Suzanne, puis, profitant de son absence aux toilettes, prépare le piège. Un screwdriver, boisson choisie pour son innocence, devient le vecteur de son poison. Les souvenirs de Suzanne commencent à s'effacer presque immédiatement après avoir siroté le cocktail. Une Thunderbird verte sale, une chambre d'hôtel, l'agression. Les images se brouillent, se confondent dans un tourbillon de douleurs. Elle se souvient du fouet, un morceau de tuyau d'arrosage vert, laissant des marques indélébiles sur sa peau. Le 12 octobre, soit 2 jours plus tard,
Elle émerge de ce cauchemar dans la chambre 28 de l'Airport Motel à Hackensack, marquée par la violence, son corps témoignant des horreurs subies. Ses boucles d'oreilles sont arrachées, son corps est devenu un tableau vivant de l'agonie. Appelant la police de ses dernières forces, Suzanne attend les secours, une silhouette brisée sur le seuil de la chambre. Le capitaine John Agar est accueilli par cette vision d'horreur, une femme à peine reconnaissable, les vêtements en lambeaux, le visage meurtri par la violence, les pensées embrouillées par les drogues. Dans cette chambre, les enquêteurs découvrent des serviettes, reliques macabres d'une nuit d'horreur, envoyées en hâte pour analyse. Le verdict tombe, énigmatique. Le suspect est de groupe sanguin O. À l'hôpital de Hackensack, le destin de Suzanne s'entrelace tragiquement avec celui de Karen, une autre victime marquée par la violence. Enceinte et meurtrie, Suzanne incarne la survie au milieu du désespoir. Les traces de morsure, le sang de type O, autant d'indices qui laissent la police une nouvelle fois face à une impasse. Dans l'ombre de Times Square, là où la lumière des néons peine à percer l'obscurité des vices, Richard Cottingham se meut avec aisance. Il a une prédilection pour les prostituées, convaincu que leur disparition passerait inaperçue dans le tumulte incessant de New York, la ville qui ne dort jamais. Pour lui, elles incarnent la proie facile, le gain sans peine dans ce jeu macabre qu'il orchestre. Au fil des années, le quartier de Times Square devient son terrain de chasse privilégié, un endroit sordide où Richard, sous couvert de la nuit, sélectionne ses victimes. Bien qu'il ait parfois un type en tête, ses brunes, aux longs cheveux et aux formes généreuses, son attention se porte ensuite spécifiquement sur les travailleuses du sexe, trop faciles à trouver et trop tentantes pour être ignorées. Plus d'un an s'écoule et Cottingham escalade dans l'horreur. Fin novembre 1979, sous le pseudonyme de Carl Wilson de Merlin, il réserve une chambre au Travel Inn Motor Lodge, aujourd'hui connu sous le nom de Travel Inn Hotel New York. Le 2 décembre 1979 marque le début d'une nuit d'effroi inimaginable. Didier Goudarzi, 23 ans, et une autre femme, dont le nom restera à jamais Jane Doe, sont entraînés dans la spirale de violence de Cottingham. Violés et torturés, leurs corps sont marqués de coupures superficielles, des stigmates de la douleur et de la terreur. Mais ce n'est que le prélude de leur calvaire. Attachées, terrifiées, elles subissent les derniers actes de cruauté de Cottingham avant d'être sauvagement assassinées. Dans un geste final de déshumanisation, il mutile leur corps, les dépouillant de leurs mains et de leur tête, avant de les disposer séparément sur les lits. Puis, il incendie la chambre, laissant derrière lui une scène de désolation où, par un étrange souci du détail, les vêtements des femmes reposent pliés dans la baignoire, un écho macabre de son œuvre précédente. Il sort, dans le but de jeter les têtes dissimulées dans un sac de sport, à 3h30 du matin. Deux policiers, passant par là, l'arrêtent. « Hé, vous ! Où allez-vous ? Que faites-vous dehors à cette heure-ci » lui lance-t-il. « Bonsoir, messieurs. Je suis à l'hôtel, je vais chercher quelque chose à manger. » « Très bien, ne traînez pas dehors, s'il vous plaît. » Les policiers viennent de parler au tueur sanguinaire, sans qu'ils en aient le moindre soupçon. Au sein de l'entreprise d'assurance où Richard Cottingham travaille, les conversations autour de la machine à café sont dominées par une série de meurtres d'une horreur inqualifiable qui secoue la région. Un jour de 1979, l'atmosphère pesante se fait sentir lorsque Rob, un collègue, lance dans une tentative de comprendre l'incompréhensible « Quel malade ferait une chose pareille ? Couper les têtes et les mains, mettre ses filles au lit et puis les brûler ?»« Je ne sais pas, Rob. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. » répond Richard. Ces mots résonnent dans le silence qui suit, lourd de la brutalité des actes évoqués. Tous les regards se tournent vers Richard, l'homme qui, d'ordinaire, se fond si bien dans le décor. Sa voix, teintée d'un humour sombre, fait frissonner ses collègues. Pendant ce temps, la police du New Jersey peine à établir une connexion entre Cottingham et le meurtre de Mary Ann Carr. Les différences notables entre les affaires les laissent perplexes. Le 5 mai 1980, Marianne Sancanelli, employée de ménage au Quality Inn Motel à Hasbro Heights, entreprend de nettoyer la chambre 132. La routine de son travail
est brutalement interrompue lorsqu'elle découvre que l'un des lits semble inutilisé, le couvre-lit anormalement tiré vers le bas. Alors qu'elle passe l'aspirateur, un obstacle inattendu bloque son passage sous le lit et une odeur fétide emplit ses narines. Le cœur battant, elle soulève le matelas. L'horreur se dévoile sous ses yeux, le corps nu, menotté et sans vie d'une jeune femme. La victime, identifiée comme Valérie Ann Street, 19 ans, repose dans une mise en scène macabre. Ses traits, même dans la mort, semblent artificiellement disposés, ses mains menottées derrière le dos, marquées par la violence des entraves. La torture qu'elle a subie est évidente dans chaque marque sur son corps. Contusion, coupure, une morsure presque fatale à son mamelon gauche. Toute trace de son identité, tout vêtement pouvant la revendiquer, a disparu. La mort de Valérie Street apporte un indice crucial à la police. L'utilisation répétée du même hôtel par le tueur. Ce détail, révélateur de son narcissisme, suggère qu'il se croit au-dessus des lois, invisible aux yeux de tous. Dans l'enceinte feutrée de l'université Radford, en Virginie, le docteur Michael Amott, chef renommé du département de psychologie, partage une observation glaçante sur la nature des tueurs en série. Il y a généralement une période de refroidissement entre leurs crimes. Or, cette période tend à se raccourcir au fil du temps, explique-t-il, son expertise en la matière conférant un poids particulier à ses paroles. Richard Cottingham, un nom désormais synonyme de tueur dans le New Jersey et au-delà, n'échappe pas à cette règle. Sa période de refroidissement s'est réduite drastiquement, témoignant d'une frénésie meurtrière croissante. À peine plus d'une semaine après un crime horrifiant, le 12 mai 1980, il frappe à nouveau. Cette fois, c'est Pamela Weisenfeld, une serveuse, qui subit sa brutalité. Abandonnée dans un parking à Teaneck, elle est retrouvée droguée et battue, ses seins marqués par de sauvages morsures, vestiges d'une nuit d'horreur. Le cauchemar ne s'arrête pas là. Le 15 mai 1980, les pompiers répondent à un appel alarmant provenant de l'hôtel Séville, situé sur la East 29e Street. Ils y découvrent le corps mutilé d'une jeune femme, les marques profondes de morsures sur sa peau témoignant d'une violence inouïe. Comme pour effacer toute preuve, son bourreau l'a réduite en cendres. Mais cette fois, une macabre mise en scène s'offre à eux. Ses seins, tranchés avec soin, sont posés sur la tête du lit. Les empreintes digitales et les photographies permettent d'identifier la victime. Jean Renner, 25 ans, une prostituée de Times Square. La similitude frappante des sévices subis par Jean et par les victimes précédentes conduit la police à une conclusion inévitable. Ces actes monstrueux sont l'œuvre d'un seul homme. Les morsures, le feu qui a dévoré le corps de Jean deviennent la signature indélébile du monstre qui se cache derrière ces atrocités. La police et les médias le surnomment désormais le Reaper de Times Square ou le tueur au torse. La certitude de la police se mue en obsession. Arrêter le Reaper de Times Square avant qu'il ne frappe à nouveau. Sur le trottoir de l'avenue Lexington et de la 25e rue, sous les néons qui éclairent la nuit new-yorkaise, Leslie Ann O'Dell, 18 ans, croise le chemin de Richard Cottingham. La jeune femme, dont la beauté innocente attire l'œil, ne sait pas encore qu'elle vient de rencontrer son pire cauchemar. Cottingham, se présentant sous le faux nom de Tommy, engage la conversation avec Leslie, une fille qui incarne parfaitement ses critères de sélection morbide. Elle n'a que 18 ans. Il la rencontre le 22 mai. Il commence par lui offrir des boissons, jouant sur son désespoir avec des promesses d'aide. Il propose de l'emmener à un terminal de bus dans le New Jersey, un geste de générosité apparente qui cache ses intentions sombres. Le dialogue s'installe, et sous l'emprise de la manipulation, Leslie accepte finalement sa proposition, acceptant d'avoir des relations sexuelles pour 100 dollars. Au petit matin, alors que les premières lueurs annoncent un nouveau jour, Cottingham conduit Leslie à l'Asbrook High Quality Inn Motor Hotel, théâtre de ses crimes précédents. Il y avait moins de 3 semaines, il y cachait le corps mutilé de sa dernière victime sous un matelas. L'employé de la réception, inconscient du drame qui se prépare, lui remet les clés de la chambre 117, sans reconnaître l'homme qui se tient devant lui. À l'arrière de l'hôtel, loin des regards, Cottingham et Leslie entrent discrètement par une porte dérobée. Une fois dans la chambre, il lui propose un massage, un prélude trompeur à l'horreur à venir. Soudain,
Il change de comportement, révélant un couteau qu'il presse contre la gorge de Leslie, la menottant pour l'immobiliser. Sous le poids de Cottingham, Leslie réalise avec terreur l'ampleur de sa vulnérabilité. « Tu sais, j'aime ça », lui souffle-t-il, sadique, avant de commencer sa macabre routine. « Je prends plaisir à torturer les femmes, à te traiter de manière dégradante. Et tu sais que tu mérites cette souffrance. T'es une putain et tu dois être puni. »
Pour lui, punir les prostituées est un acte de justice tordu. Les heures qui suivent sont un calvaire pour Leslie. Entre les morsures brutales, les agressions sexuelles et les coupures infligées par le couteau de Cottingham, elle est plongée dans un état de terreur absolue. Cottingham, quant à lui, trouve une excitation perverse dans ses actes et dans la narration détaillée des souffrances qu'il inflige à sa victime. Dans cette chambre d'hôtel, un lieu devenu l'antichambre de l'enfer, Leslie se bat pour survivre face à un monstre qui se délecte de la douleur qu'il provoque. Dans la chambre oppressante du Quality Inn Motor Hotel à Hasbrook Heights, le silence est rompu par les cris étouffés de Leslie Anodell. La jeune femme de 18 ans se trouve au cœur d'un tourment inimaginable, orchestré par Richard Cottingham, qui se délecte de sa souffrance. Entre les actes de viol, les morsures sauvages et les coups, Cottingham, dans un geste étrangement tendre, essuie le visage de Leslie avec un gant de toilette humide. Un contraste perturbant avec la cruauté de ses actes. Au plus profond de cette nuit d'horreur, un moment d'espoir émerge pour Leslie. Ses mains libres, elle tâtonne sous le lit à la recherche du pistolet avec lequel Cottingham l'avait menacé plus tôt. Dans un acte de désespoir, elle tente de l'utiliser contre lui, mais le pistolet est faux, incapable de tirer. Cette tentative vaine ne fait qu'exacerber la fureur de Cottingham, qui se saisit de son couteau, prêt à poursuivre sa torture. Les cris de Leslie résonnent au-delà des murs de la chambre 117, alertant un autre client. Inquiet, celui-ci contacte la réception, signalant le tumulte. Le réceptionniste, se rappelant avec anxiété le meurtre récent de Jean Rayner dans le même hôtel, hésite avant d'appeler la police. Il faut plusieurs minutes de persuasion pour qu'un employé accepte de se diriger vers la chambre funeste, en compagnie de la police. Quand la porte s'ouvre enfin, Leslie se tient là, visiblement terrifiée, avec Cottingham dissimulé derrière elle, un couteau pressé contre son flanc.
« Tout va bien », dit-elle d'une voix tremblante. Mais ses yeux, roulant de gauche à droite, trahissent la vérité de sa détresse.
Dans cette scène chargée de tension, Cottingham commet l'erreur fatale qui le trahira. Submergé par l'excitation perverse tirée des cris de Leslie, il oublie sa prudence habituelle. C'est alors que les policiers Alan Grico et Edward Denning aperçoivent un homme s'échapper par la fenêtre, un couteau à la main. En quelques secondes, ils l'arrêtent, mettant fin au règne de terreur de Richard Francis Cottingham. À l'intérieur de la chambre, Leslie, menottée et mutilée, est le témoin vivant des atrocités de Cottingham. Son sac est rempli d'instruments de torture témoignant de ses crimes. Parmi eux, des menottes, du ruban adhésif, un bâillon en cuir et une réserve de pilules, révélant la préméditation et la brutalité de ses actes. L'arrestation de Cottingham soulève un soupir de soulagement parmi les forces de l'ordre, hanté par le souvenir des victimes précédentes. Pour Dean Conway, avocat de la défense, le contenu du sac de Cottingham révèle l'ampleur de sa folie meurtrière. Peu de temps après, en 1981, la femme de Cottingham obtient le divorce et quitte Poughkeepsie avec ses trois enfants, laissant derrière elle l'ombre d'un homme qu'elle ne reconnaît plus. Dans la salle d'interrogatoire austère, l'atmosphère est tendue. Richard Cottingham, face aux enquêteurs Edward Denning et Alan Grico, maintient une version des faits qui défie toute logique morale.
La relation avec Leslie était consensuelle, affirme-t-il avec une assurance déroutante. Elle a été payée, après tout.
Son ton, détaché, comme s'il parlait d'une simple transaction commerciale, glace le sang des présents. Denning et Grico, expérimentés et perspicaces, tentent de jouer sur son narcissisme pour le faire trébucher dans ses mensonges. Mais Cottingham, imperturbable, se drape dans une indifférence calculée.
Le stress de mon divorce m'a poussé à agir ainsi, poursuit-il. Je me rappelle pas de tous les détails.
Ses mots tentent de banaliser l'inimaginable, le présentant comme un simple jeu. Le procureur Callot armé d'un dossier d'accusation irréfutable, peine à contenir son irritation face à l'attitude de Cunningham. L'avocat Conway, quant à lui, observe son client nier l'évidence avec une frustration grandissante. Les preuves s'accumulent, mais Cunningham reste ancré dans son déni. L'analyse de sa personnalité révèle un psychopathe typique, manipulateur, dépourvu de remords, se considérant au-dessus des lois. Son refus de coopérer, ses accusations de manipulation contre les forces de l'ordre, ne font que confirmer ce portrait. Lorsque Richard Cunningham est arrêté en flagrant délit dans les confins sombres du Quality Inn, le dédale de son esprit tordu commence à peine à se dévoiler. Face aux enquêteurs, son déni est catégorique, sa défense, une simple phrase lourde de sous-entendus. « J'ai un problème avec les femmes. » Cette confession glaciale laisse entrevoir l'abîme de ses perversions. On apprendra, dans le sillage de ses aveux énigmatiques, que l'obscurité de la nuit était son allié, que déguisé d'une perruque, il quittait le lit conjugal pour chasser dans les bars, à l'affût de jeunes femmes. Les policiers, face à son mutisme calculé, décident de fouiller son domicile. Ce qu'ils y découvrent dépasse l'entendement. Une pièce, interdite à sa famille, cache les preuves de ses excursions nocturnes. C'est là que les inspecteurs tombent sur une collection macabre, un trésor de guerre constitué d'objets personnels arrachés à ses victimes. « Regarde ça !» murmure l'un des inspecteurs en soulevant délicatement une paire de boucles d'oreilles. Son collègue reconnaît immédiatement l'accessoire. Ces boucles, elles appartenaient à cette prostituée retrouvée sans tête dans un hôtel de New York. Leur enquête les conduit de découverte en découverte, chaque objet évoquant le souvenir d'une vie fauchée. Des clés, dont certaines ouvraient les portes d'un appartement, dont la propriétaire avait été assassinée 3 ans auparavant, témoignent de l'étendue des crimes de Cunningham. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Au fur et à mesure que les inspecteurs fouillent, ils exhument des papiers d'identité appartenant à des femmes disparues ou retrouvées mortes, ajoutant des noms aux statistiques tragiques de l'œuvre de Cunningham. Dans cette pièce, chaque objet raconte une histoire d'horreur, un chapitre du sinistre récit que Cunningham a écrit à travers ses actes dépravés. Les inspecteurs, face à cet inventaire de la mort, prennent pleinement conscience de la nature monstrueuse de l'homme qu'ils ont sous leur garde. La double vie de Cunningham, partagée entre son foyer apparemment normal et ses excursions meurtrières, révèle un écart abyssal entre l'image du père de famille et la réalité du prédateur qu'il était en secret. Ses collègues, stupéfaits, peinent à concilier l'image de l'homme qu'ils croyaient connaître avec celle du monstre révélé par l'enquête. Cunningham, qui menait une double vie, semblait être un père de famille ordinaire, dissimulant sous cette façade sa nature véritable. Le procès, se tenant dans diverses juridictions, commence à Hackensack, New Jersey, en mai 1981. Il révèle des détails glaçants sur ses crimes. Il doit affronter 4 procès dans différentes juridictions. Au premier, à Hackensack, New Jersey, il est jugé pour le meurtre de Valerie Ann Street et d'autres agressions. Malgré une apparence ordinaire et des témoignages en sa faveur de proches, les preuves accablantes révèlent le vrai visage du monstre. Ses victimes survivantes fournissent des récits horribles de torture et d'abus. Les preuves, y compris les empreintes digitales, les témoignages et les objets volés, sont sans équivoque. Les détails de ces méfaits, exposés aux jurés, dessinent le portrait d'un homme obsédé par la torture. Cunningham attirait ses victimes en leur promettant monts et merveilles, pour ensuite les droguer et les soumettre à des sévices inhumains. Face aux accusations, Cunningham tente de manipuler le tribunal, prenant des notes, cherchant à détourner la faute. Mais les empreintes digitales, les témoignages des survivants et les preuves matérielles écrasantes peignent un tableau sans complaisance de sa culpabilité. Malgré ses efforts désespérés pour se présenter comme innocent, la réalité de ses crimes horribles finit par émerger. Le procureur, déterminé à le faire payer, expose sa nature sadique. Le verdict, rendu en juin 1981, condamne Cunningham à une peine de prison de 173 à 197 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Son suicide raté en prison souligne son impuissance face à la justice. Ainsi, le prédateur jadis redouté est désormais derrière les barreaux, condamné pour ses crimes odieux. Cunningham est jugé à nouveau pour le meurtre de Mary Ann Carr, mais le procès est interrompu lorsqu'il s'effondre en raison d'un ulcère duodénal.
Le procès reprend plus tard, Cottingham optant pour un procès sans jury. Les preuves présentées, y compris les similitudes avec ses crimes précédents et les objets compromettants trouvés, sont accablantes. Cottingham tente de s'échapper pendant le procès, mais est rapidement appréhendé. Finalement, il est déclaré coupable par le juge et condamné à une peine de 25 ans à perpétuité, à purger consécutivement à sa peine précédente. Cottingham a été jugé pour les meurtres de Didier Goudarzi, Jane Doe et Jean Rayner à New York. Malgré une tentative de suicide pendant le procès, il a été déclaré coupable par un jury en seulement 3 heures de délibération. Le 28 août 1984, il a été condamné à une peine supplémentaire de 75 ans à perpétuité, garantissant qu'il ne puisse plus nuire à personne. Cottingham a ensuite été transféré de retour au New Jersey pour purger sa peine à la prison d'État de Trenton. Au cours des années qui suivent, l'ombre de Cottingham plane sur les murs de sa cellule, tandis qu'il fait face à ses propres démons à travers plusieurs tentatives de suicide. Le silence enveloppe ses crimes pendant près de 3 décennies, un silence qu'il brise finalement en 2010, surprenant les autorités en avouant le meurtre de Nancy Chava Vogel, datant de 1967. Cet aveu vient clore un chapitre ouvert depuis trop longtemps, offrant un semblant de paix à la famille de la victime. Face à l'horreur de ses actes, Cottingham exprime des remords lors d'une entrevue. « Je dois être malade pour avoir fait de telles choses », confie-t-il, une rare concession à la conscience dans un océan de brutalité. Malgré ses excuses, une nouvelle peine à perpétuité s'ajoute à son fardeau judiciaire. Des spéculations persistent autour d'autres crimes non élucidés qui pourraient porter sa signature. Les meurtres de Mariam Pryor et Lauren Kelly en 1974, ainsi que la disparition mystérieuse d'Hélène Sykes en 1979. Ces crimes présentent des similitudes troublantes avec le modus operandi de Cottingham. Bien que des investigations approfondies aient été menées, les preuves concrètes manquent pour établir un lien direct avec lui. Rod Leith, un journaliste qui a couvert en profondeur l'affaire Cottingham avant, pendant et après le procès, a écrit 2 livres, The Torso Killer et The Prostitute Murders, sur ses expériences en couvrant les agressions et les meurtres, la traque du suspect et les procès qui ont suivi. Il décrit Cottingham comme un individu extrêmement dangereux, un escroc et un psychopathe qui menait une double vie. Ayant passé des années à enquêter sur les crimes, Leith a finalement fondé sa propre agence d'investigation, tirant parti de son expérience dans le journalisme criminel. Nadia Fezzani, une journaliste canadienne victime d'un crime violent dans sa jeunesse, a interviewé Cottingham en prison dans l'espoir de comprendre ses motivations pour commettre des actes aussi horribles. Après 2 ans de négociations, elle a réussi à obtenir une entrevue avec lui. Cottingham a initialement refusé de nombreuses demandes d'interview. Mais il a été intrigué par Fezzani et a finalement accepté de parler. Leur échange de lettres a permis à Fezzani de gagner sa confiance et de recueillir des informations sur ses crimes. Malgré ses propres appréhensions, elle a continué à poser des questions difficiles pour obtenir des réponses. Les amis d'enfance de Cottingham et ses collègues ont du mal à comprendre comment il a pu se transformer en monstre. Pour certains, il est intrinsèquement mauvais, un psychopathe sans remords ni empathie. Ses crimes atroces ont laissé derrière eux des familles brisées et des vies détruites, sans réponse à la question du « pourquoi ?». Dans l'atmosphère tendue de la salle d'audience, Richard Cottingham livre une confession glaçante. « Je voulais être le meilleur dans tout ce que je faisais », déclare-t-il, ces mots résonnant d'une arrogance morbide. Son aveu, terrifiant dans sa simplicité, révèle l'étendue de sa folie meurtrière. Le médecin légiste, Louis Napolitano, témoin privilégié de l'horreur inscrite sur les corps des victimes, partage son expérience traumatisante. « Je me souviens encore du visage de Cottingham », confie-t-il. « Alors que j'expliquais que les corps étaient mutilés et tailladés de manière identique, il me regardait, souriait et riait. Ce rire, macabre, résonne comme l'écho d'un cauchemar éveillé, témoignant de l'absence totale d'empathie de Cottingham. L'accusé lui-même, plongé dans une froideur émotionnelle, avoue avec désinvolture ses méthodes barbares. « J'en découpais certaines avec une scie à métaux », admet-il, sans la moindre trace de remords. « C'était pour que la police ne puisse pas identifier les victimes. Ce n'était pas pire qu'un médecin qui t'enlève le cerveau quand tu es décédé. La victime était déjà morte, ce n'était plus que des corps. » Ces paroles, dénuées de toute humanité,
révèlent une rationalisation perverse de ses actes. Cottingham détaille également sa stratégie macabre pour attirer ses proies. « Je crée une situation où les femmes venaient à moi », raconte-t-il. En crevant les pneus de leur voiture sur les parkings de centres commerciaux, il se faisait passer pour un bon samaritain avant de révéler sa véritable nature. Une fois à bord de leur véhicule, il les menaçait d'une arme, scellant leur destin tragique. En 2019, Cottingham étend l'ombre de ses aveux à trois nouveaux meurtres, révélant les noms de ses jeunes victimes. Irene Blaze, Denise Valaska et Jackie Harp, dont les vies ont été brutalement arrachées entre 1968 et 1969. Ces confessions ajoutent de nouvelles pages sombres à l'histoire, déjà macabre, de Cottingham. Malgré les efforts incessants de la police, les têtes et les mains des victimes de l'hôtel Times Square n'ont jamais été retrouvées. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.